m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui, avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Amis du lundi, Hardy, bienvenue dans votre émission. Donc, restons courtois, votre émission de débat en partenariat avec Boulevard Voltaire, avec Valeurs Actuelles, avec Le Monde Moderne et avec L'Incorrect. Et ce soir, donc, nous recevons William Molinier, auteur de Dernier Recours aux éditions Mareuil, pour parler de l'affaire Naël. Alors, on se souvient évidemment de cette affaire au cours de laquelle Naël Merzouk, 17 ans, avait été tué par un policier à Nanterre le 27 juin 2023 pour refus d'obtempérer. Il avait notamment mis en danger la vie de nombreuses personnes. Puisque le jeune délinquant donc roulait sans permis dans une Mercedes immatriculée en Pologne qui ne lui appartenait pas, et après une folle course poursuite donc qui avait, comme je le disais, mis beaucoup de monde en danger, il persistait à tenter de fuir, et la mort de Naël avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, et puis évidemment rapidement interprétée comme une violence policière. Et en 7 secondes, donc le temps de cette vidéo, la France avait basculé dans 8 jours d'émeute, dont j'imagine on se souvient, qui avait causé un milliard d'euros de dégâts, mais surtout qui avait causé des milliers de traumatismes pour les victimes, et puis beaucoup de violences enragées, et puis évidemment une polémique nationale dont nos amis de LFI s'étaient emparés. Alors depuis, le policier auteur du coup de feu a été mis en examen, son identité a été livrée sur les réseaux sociaux, sa famille a été contrainte de déménager pour se mettre à l'abri. Et la justice a mis 2 ans et demi pour reconnaître qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer. En mars 2026, la cour d'appel de Versailles a abandonné la qualification de meurtre, mais le procès n'est pas fini. Et donc justement, avec William Molinier, nous ferons un point sur cette affaire et nous tenterons surtout de comprendre tout ce que la vidéo de 7 secondes donc, ne montrait pas, et ce qu'elle a même effacé des mémoires, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant, pendant et puis après ces secondes fatales. Alors, rendez-vous de la réinformation ensuite. Nous allons parler, oui, voilà, de cette vaste enquête de l'IFOP qui vient de paraître et qui dit pour la première fois des choses que, généralement, on ignore, délibérément ou non. Donc, elle revient évidemment sur les représentations classiques concernant les personnes noires ou arabes victimes de racisme, mais elle dit aussi que 70% des Asiatiques ont subi des actes ou des comportements racistes, généralement de la part de groupes africains ou maghrébins, même si à l'école ou dans le monde du travail, les Asiatiques sont considérés, nous dit-on, comme une minorité modèle par les Français de souche. On apprend aussi que 80% des Français juifs ont subi des agressions ou des discriminations racistes, et de manière totalement inédite, cette enquête cesse d'invisibiliser, comme on dit de nos jours, le racisme anti-blanc en tenant compte des 39% de Français qui se reconnaissent comme blancs, qui déclarent avoir été victimes de comportements racistes, et puis alors surtout... Là encore, de manière tout à fait inédite, cette enquête établit un lien direct entre la montée de ces phénomènes racistes et la question de l'immigration, un énorme sujet donc qui rebat les stéréotypes sur le sujet. Nous parlerons ensuite de Boualem Sansal, qui est durement attaqué à gauche, et après le politologue Jean-Yves Camus, dont on avait parlé récemment, qui a été accusé par Le Monde de basculer à droite et de ne plus être assez hostile au Rassemblement National, c'est Boualem Sansal donc, que Le Monde attaque. Donc dans un article du 7 avril 2026, le quotidien de référence, avec tous les guillemets, nous explique que l'écrivain et académicien provoque, un malaise grandissant en France. Alors à gauche, je veux bien, en France, j'ai quand même des doutes. Son crime serait donc d'avoir quitté Gallimard, qui était sa maison d'édition historique, qui avait choisi une voie de la diplomatie, c'est-à-dire une voie du silence et d'une certaine... complaisance, d'après ce qu'on peut savoir envers Alger, et qu'il aurait rejoint Grasset. C'est peut-être là le plus grave, Grasset étant une propriété du groupe Hachette, donc de Vincent Bolloré, l'affreux, l'horrible, etc. Et surtout, donc, le Monde reproche à Sansal d'avoir dénoncé l'islamisation de la France et pointé la pusillanimité de nos élites face au régime algérien. Hongrie, enfin. Après 16 ans au pouvoir, Viktor Orban donc, tire sa révérence. Le conservateur pro-européen Peter Magyar, je ne sais pas comment on dit, qui est lui-même un dissident du Fidesz de Viktor Orban, a remporté les élections législatives en Hongrie hier, avec une majorité des deux tiers, qui devrait donc lui laisser les mains libres pour démanteler le système installé par Viktor Orban. Et voilà, les questions qu'on va se poser, c'est comment expliquer cette chute spectaculaire? Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Qui est donc ce Peter Magyar? Et qu'est-ce que cela va changer en Hongrie, en Europe, et puis évidemment dans le monde, puisque la Hongrie avait des liens importants, notamment avec la Russie, mais aussi avec les États-Unis. Et s'il reste encore un petit peu de temps, ben voilà, nous ferons un point sur les négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis, qui, comme vous le savez sûrement, n'ont pas encore obtenu la réouverture de ce putain de détroit, pour parler non pas de Viktor Orban, mais comme Donald Trump. Alors, pour parler de tout cela, j'ai le plaisir d'avoir avec moi les Magyars de la réinformation, avec Richard Decesse, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie.
Bonsoir.
Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect. Damien Rieu, influenceur, lanceur d'alerte. Jean-Yves Le Gallou, directeur, président de Polémia. Et Alexis Poulain, directeur du Monde Moderne. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle, vous pouvez envoyer vos courriers, vos questions en téléphonant au 01 46 51 00 85. 0146 51 00 85 ou en écrivant un courriel à courtoisie@rc.fr. Mais tout de suite, donc, on commence avec William Molinier, auteur de Dernier recours aux éditions Mareuil. Donc, comme je le disais, le 27 juin, pardon, 2023 à Nanterre, deux policiers poursuivent une Mercedes jaune à plaque polonaise qui roule sur une voie de bus. Cela se termine par l'arrestation du chauffeur, qui est un jeune homme de 17 ans, donc par définition n'a pas le permis, qui roule dans une voiture qui ne lui appartient pas, et qui, menacé quand même directement d'une arme, continue à essayer de rouler.
Une arme par destination. Hein.
C'était un Glock ou...
Le policier
non, ou le policier.
Oui, le policier.
Le policier avait son arme de service.
Bien sûr, arme de service.
Et... Et le chauffard, donc, lui, avait sa Mercedes. Alors, je ne sais pas si elle n'était pas volée, apparemment, mais louée.
Elle est louée, par toute une série de...
D'intermédiaires,
absolument.
Et donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette affaire? Mais peut-être avant même de revenir sur tout le sujet, parler un peu de vous. Donc, vous-même, vous êtes un enquêteur d'Europe 1 depuis une dizaine d'années, c'est ça?
À Europe 1 depuis 6 ans. Et oui, je m'intéresse aux questions de police et de justice depuis un peu plus d'une dizaine d'années.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à traiter cette affaire, qui est à travers la forme d'un livre, plutôt qu'une série d'articles, comme vous auriez pu le faire avec à peu près n'importe quelle autre affaire?
Alors, ce qui m'a amené à traiter ça dans un livre, c'est déjà aussi le fait que ce soit un livre et qu'il y ait beaucoup plus de place, beaucoup plus de place pour raconter cette affaire. Au moment où l'affaire éclate, je me trouve pas en France.
Vous êtes en Italie.
Je suis en Italie avec des militaires français et donc je découvre cette histoire un peu, je pense, comme une très grande majorité des Français, c'est-à-dire pas forcément hyper connectés aux médias. Et je vois donc évidemment cette vidéo. Je me souviens, je suis dans le bus avec les militaires. Je clique sur le lien, la vidéo s'ouvre et autour de moi s'agrègent plusieurs militaires. Et la première réaction que j'entends, c'est comment ont-ils fait pour se retrouver, les policiers, dans cette situation-là? Et alors, effectivement, après, il y a un échange et donc, après, je reviens et je vais me rendre compte pendant un an d'enquête, l'enquête des policiers, l'enquête des experts qui sont mandatés par les juges d'instruction, qu'un certain nombre d'éléments vont percuter ce récit initial et cette première impression d'un policier fou de la gâchette qui aurait tirer sans aucune précaution, sans savoir même peut-être ce qu'il faisait. Non, le policier en fait a tiré, sait pourquoi il a tiré, il va le dire tout au long de l'enquête, il est constant, il aurait très bien pu... dès le début, voire même après, évoluer sur sa stratégie de défense en disant que le coup est parti tout seul, c'est un homicide involontaire. Non, lui, il sait pourquoi il a tiré, parce que cette voiture le mettait, lui, en danger, son collègue et possiblement d'autres personnes qui étaient qui auraient pu être percutées par la voiture lors de sa fuite.
Oui, tout ça, on refera le récit complet, mais comment est-ce que... D'abord, comment est-ce que vous êtes intéressé à l'affaire ? Parce que vous étiez en Italie, vous étiez sur un sujet plutôt militaire.
Oui.
Et comment, en rentrant, vous mettez sur ça? C'est...
Bah, après, il y a eu quand même une semaine d'émeute. Ouais. Le sujet est quand même venu nourrir le débat politique. Et je me rends compte, mais même encore aujourd'hui, qu'en discutant avec des gens qui ne sont pas forcément acculturés à la matière policière et à l'usage de l'arme, qui reste quand même un domaine hyper particulier et peu connu, qu'il y a cette impression, encore une fois, d'un policier fou de la gâchette qui a tiré n'importe comment et qui donc est coupable d'avoir tué ce jeune garçon.
Alors vous avez eu accès à des sources policières justement et,
oui.
et juridiques. Comment ça se passe? Alors c'est vous qui appelez des sources et on vous informe que... Comment vous avez eu accès à ces sources?
C'est le travail d'un journaliste police-justice dans n'importe quelle rédaction. C'est d'aller au contact des gens qui sont soit directement dans l'affaire, au courant, et qui, effectivement, c'est certaines sources qui peuvent vous renseigner sur les actes d'investigation à venir, sur les conclusions d'enquête qui ont été faites, ou voilà.
Et comment vous avez été accueilli alors par ces sources? Est-ce que les gens avaient envie de parler ou...
Honnêtement, sur la première année, ça a été très compliqué. Notamment, en fait, ça s'est débloqué lorsque l'enquête policière, donc l'enquête de l'IGPN, a été bouclée et qu'elle a été en fait remise entre les mains d'un tas de sources qui ont eu accès en fait à ces documents et qui ensuite ont et en fait à partir de ce moment-là effectivement ça s'est plutôt débloqué parce que après en fait on a été dans un débat juridique sur la qualification des faits. Est-ce que vous l'avez rappelé, est-ce que c'est un meurtre, est-ce que c'est ce sont des coups mortels? Et ensuite sur la question du tir légitime, est-ce que le policier a tiré légitimement? Mais à partir du moment où tout le monde avait toutes les pièces du dossier, dès lors s'est ouvert le débat juridique à proprement parler.
Ok. Alors vous-même, je crois que vous avez été agressé dans une cité.
Oui, ça remonte. Hein.
Ça a influencé peut-être votre envie de vous intéresser à ça ou...
Ah, c'est marrant. Non, mais on m'a déjà posé cette question à la lecture du livre. Non, très honnêtement, en fait, à l'époque, donc c'était il y a une bonne dizaine d'années, le quotidien d'un journaliste PJ qui allait sur les lieux de fusillade dans les quartiers, dans les cités, en fait, on y allait très tôt le matin.
Mmh, ouais.
C'était déjà en fait imprégné. On était déjà conscient que on n'était pas les bienvenus. Et à l'époque, moi, je me souviens, j'ai pris des tas de casquettes différentes. Je me suis fait passer pour un architecte en urbanisme, pour quelqu'un de la mairie de la ville, pour pouvoir en fait continuer à travailler correctement. Et à l'époque, personne ne portait plainte. C'est-à-dire que vous aviez des journalistes qui pouvaient être coursés, des photos. Alors si, il y avait parfois des plaintes quand le matériel des photographes ou des caméras était détérioré, et là pour des questions d'assurance. Mais il n'y avait pas du tout cette prise de conscience qu'il y a aujourd'hui et qui est de journalistes qui sont agressés parfois dans les quartiers et qui est insupportable, quoi.
Oui. Oui, ça arrivait d'ailleurs souvent. Personnellement, d'ailleurs, pardon de parler de moi, mais il m'est arrivé de me faire défoncer une voiture à Roubaix, des courses-poursuites à Grenoble. Ouais. On s'était enfui avec la police, ça je m'en souviens.
Oui, moi c'est la police qui m'a extrait de la cité.
C'est assez spécial. Alors, est-ce que ces sources donc, vous ont renseigné sur le déroulé complet de l'affaire et qu'est-ce que vous avez appris finalement, de cette affaire en rencontrant ces personnalités de terrain.
Alors,
parce que vous avez en fait reconstitué, vous, le puzzle autour des 7 secondes diffusées par une voisine, je crois, qui a filmé la scène.
Oui, une riveraine qui a filmé. Enfin, la vidéo fait 40 secondes, la séquence du tir fait 7 secondes. Oui, moi, en fait, ce dont je me suis aperçu, donc il y a eu tout un tas d'expertises qui ont été ordonnées pendant un an. Et il y a plein d'éléments qui viennent en fait donner une autre version, en tout cas une autre version que le récit initial qui s'est imposé. Ça commence par ces 2 minutes 40 en fait d'avant le tir, où là on est dans le temps du refus d'obtempérer, c'est-à-dire que Naël a refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers, et s'ensuit une course-poursuite dans les rues de Nanterre, à l'heure du travail, il est entre 8h et 8h15, et il va mettre en danger plusieurs personnes, un cycliste, un piéton, il va même faire une embardée sur un des deux policiers, ça s'est corroboré dans l'enquête par 2 témoignages. Et au moment donc du...
Avec des pointes à 90 km/h.
Voilà, avec des pointes même à 110, je crois que la vitesse la plus élevée a été calculée en fait par à la fois la vidéosurveillance et le temps de trajet entre tel point et tel point, et que la vitesse la plus importante, elle est autour de 119 km/h. Une limitée à 50, une vitesse moyenne autour de 70 km/h, et je crois qu'il a passé à 6 reprises la vitesse de 90 km/h. Donc on est, voilà, ces 2 minutes 40, en fait, quand l'affaire sort, ces 2 minutes 40 sont complètement invisibilisées, personne n'en parle.
Est-ce que la police le dit, ça ? Enfin, est-ce que c'est su
alors oui,
ou on se concentre sur la vidéo de 40 secondes ?
Alors au moment où l'affaire sort, les premiers jours, en fait les policiers n'ont pas la matière pour se défendre. C'est-à-dire que c'est concrètement, ce sont des sources qui vous disent oui, mais avant il y a eu un refus d'obtempérer. Ça se base déjà au départ sur les témoignages des policiers ou des riverains. On ne sait pas trop calculer le nombre de minutes précises qu'il y a. Il y a très rapidement des temps de parcours qui passent en fait sur les ondes. Donc ça, mais là encore, c'est-à-dire qu'il faut, pour matérialiser ça, il faut du temps, il faut de l'enquête, il faut se replonger dans les mains courantes, il faut interroger les personnes qui sont à la préfecture de Nanterre derrière leur casque avec les ondes radio. Et donc tout ça, ça va prendre du temps. Autre élément très important qui vient percuter le récit initial, c'est l'expertise balistique et de la voiture automobile, puisque le récit initial consistait à dire que Naël avait été violenté à coups de crosse par le policier, donc qui s'affairait au niveau du conducteur pour trouver une clé ou le bouton start and stop. Et donc il aurait reçu des coups avec la crosse. Ça c'est démenti par l'autopsie, ce qui est très clair. Il y a eu aucun coup porté avec la crosse, de nature à ce que Naël tombe dans un état d'inconscience, relève le pied de façon involontaire de la pédale de frein, et puisque c'est une voiture automatique, elle aurait accéléré, mais sans la volonté de Naël. Ça, par exemple, l'expertise automobile est formelle. Il y a eu 4 actions de la part de Naël pour relancer la voiture. C'est-à-dire qu'il a appuyé sur le frein, en même temps appuyé sur le bouton start and stop pour redémarrer le moteur, enclencher le levier de vitesse et appuyer sur l'accélérateur. Donc c'est vraiment une action volontaire, et ça, de s'enfuir. Et ça, évidemment, au moment où sort cette vidéo, c'est 40 secondes.
Personne ne peut le comprendre.
Personne ne peut le comprendre à la lecture des vidéos. Il faut vraiment rentrer dans le système de la voiture, exploiter les données de la voiture pour pouvoir l'établir.
Alors, on reviendra ensuite sur l'ensemble des personnes qui ont été impliquées, parce que c'est pas juste l'affaire entre Naël et un policier. Il y avait du monde dans et autour de la voiture. Mais avant, la voiture, elle a quand même un parcours. Donc, elle arrive de Pologne.
Oui.
Elle est immatriculée en Pologne. Elle est louée par quelqu'un et elle roule toute la nuit.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est Naël qui l'a conduit? Est-ce que c'est... Comment on Alors, connaît l'histoire de l'historique nocturne de cette voiture
Donc, effectivement, c'est une voiture immatriculée en Pologne. Donc, le propriétaire est un Polonais. Il n'a pas été interrogé dans l'enquête.
Identifié?
Identifié ouais. par, en fait, son identité, ouais. qui correspond au propriétaire de la plaque d'immatriculation.
Et alors, pardonnez-moi, c'est ouais. une voiture volée ou c'est une voiture
non,
louée?
Non, louée.
Louée. Louée. Par le Polonais.
En fait, le Polonais met à disposition d'une entreprise de location qui, elle, se trouve à Nanterre, qui a ouvert très récemment, c'est-à-dire, je crois, de mémoire, 6 mois avant les faits, qui, elle-même, va louer cette voiture à un loueur, qui lui-même va prêter cette voiture à un jeune, qui lui-même va la confier
à Naël.
À Naël. Et c'est comme ça qu'aux alentours, un peu avant 8 heures, sous un arrêt de bus, Naël et ses deux jeunes amis, l'un a 17 ans, l'autre 14 ans, vont se retrouver dans cette voiture. Et effectivement, vous avez raison, cette voiture, elle est déjà observée dans les rues de Nanterre. Je remonte jusqu'à 72 heures avant dans le livre, où des riverains constatent que cette voiture fait des tours dans la cité. En réalité, elle va tourner pendant 72 heures, et notamment la nuit. La nuit des faits, il y aura au moins deux personnes qui seront, on ne sait pas qui, mais en tout cas deux personnes différentes qui seront vues à bord de ce véhicule, au volant de ce véhicule.
Et ça, on n'a jamais su qui c'était.
Alors, il y a des témoignages. On sait qu'il y a deux personnes qui ont été interrogées. Ils reconnaissent avoir prêté cette voiture, mais ils disaient oui. Il y en a un, par exemple, le dernier dit oui, je savais que Naël n'avait pas le permis, mais je lui ai demandé de ramener la voiture à tel endroit pour qu'il la gare. Je ne savais pas qui ferait tout ça. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est une sorte de rodéo urbain toute la nuit. Et en fait, Naël et ses amis sont les plus jeunes de la bande. Ce sont eux, c'est les mineurs, les petits. Certains d'entre eux attendent
pour
tout
rouler,
au long de la nuit, voilà, pour rouler. Et quand ils prennent le volant, les roues sont encore chaudes. Et Naël sait qu'il va aller vite. Pourquoi? Là, ça, il y a deux éléments dans l'enquête qui le montrent. C'est un, il désactive la fonction qui permet d'éteindre le moteur au feu rouge. Donc ça, il désactive ça, c'est-à-dire que la voiture reste tout le temps allumée. Et deux, qui est encore plus matérialisé, c'est qu'il désactive la fonction drift de ce véhicule, c'est-à-dire les roues qui peuvent patiner. C'est justement pour ne pas patiner, et parce qu'il sait qu'il va aller vite dans les rues de Nanterre, qu'il désactive cette fonction.
D'accord. Et alors, parmi il y a deux passagers, donc à côté de Naël, il y a Fouad et Rafik, qui eux vont être interpellés aussi, j'imagine, donc.
Alors, le passager arrière, oui, au moment des faits. En revanche, Fouad, qui est le passager avant, qui a 17 ans, lui va prendre la fuite. Et il ne se présentera, les faits ont lieu le mardi, il ne se présentera que le lundi d'après au commissariat, non sans avoir lui-même, dès le premier soir, en fait, diffusé sur les réseaux sociaux sa version des faits, donc la version initiale dont on parlait, et qui va... en fait, donner le là de la récupération politique derrière et de une forme de légitimation des émeutes, quoi.
Oui, et d'inversion
accusatoire.
On va dire, c'est le policier qui est violent. Et Naël avait déjà, malgré son jeune âge, un petit parcours, non, de délinquant.
Oui. Alors, il est entré effectivement dans la délinquance routière. Il a son actif. Une quinzaine de mentions au TAJ, au traitement des antécédents judiciaires.
15 mentions, 17 ans. Bah,
voilà. C'est bien. 33 verbalisations en moins d'un an. Et il en est à son quatrième refus d'obtempérer, dont le dernier remonte à quelques jours seulement avant les faits. Faits pour lesquels il n'est... Mais son casier judiciaire est vierge. Il n'a pas de mention au casier judiciaire. Donc, et ça a été
un débat. À cause de quoi alors? Parce qu'il est mineur?
Pour tout un tas de raisons. Moi, je ne suis pas rentré dans les raisons pour lesquelles à chaque fois il a été... Mais en fait, en
y
réalité...
Il n'y a pas un juge pour enfants qui met de sanctions.
Malheureusement, c'est un cas assez typique, banal de ce qui se passe aujourd'hui pour les mineurs dans ces quartiers. C'est pas non plus un, c'est pas un délinquant chevronné. Il est le c'est pas un trafiquant de stupéfiants. Quoi. C'est une entrée dans la délinquance et mais enfin par la délinquance routière. Voilà.
D'accord. Damien Rieu, bien le micro.
Vous dites qu'il a été arrêté donc 4 fois pour refus d'obtempérer en voiture ou en scooter?
Il a été arrêté 4 fois pour refus d'obtempérer, je crois 2 fois en voiture.
Et donc un mineur?
Excusez-moi. Non, scooter, c'est à chaque fois avec son propre scooter. D'accord. Et je crois que dans les 4, il y a une ou deux fois où il est à bord d'un autre scooter, pardon.
D'accord, parce que si c'était en voiture, j'avais du mal à comprendre comment il aurait pu être relâché. Bon, en scooter, on comprend qu'il risque plus sa vie que celle des autres, mais en voiture, si on avait relâché 4 fois quelqu'un pour refus d'obtempérer en quelques jours, ça m'aurait encore plus choqué.
Alors, et donc, à côté de Fouad et Rafik, donc, on a les policiers, donc on a 2 policiers. Encore une fois, c'est pas un flic solitaire.
C'est une patrouille de police, des coéquipiers,
oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le second policier?
Alors, qui est le second policier? Celui qui tire ou celui qui...
À la limite, les deux. C'est-à-dire, en gros, ils prennent en chasse la voiture, si on refait le récit.
Ouais.
À un moment, Naël n'arrive plus à foncer à travers les rues parce qu'il est pris dans une espèce d'embouteillage.
Voilà.
Un des policiers, donc, qui s'appelle Florian, sort et tente de l'arrêter, mais le second policier agit également.
Oui, alors
Qu'ils agissent surtout selon une procédure? Est-ce que tout est réglo ou est-ce qu'ils prennent, ils font un peu les cow-boys?
Voilà. Alors, les deux policiers arrivent dans la montée du passage Arago à Nanterre et ils mettent pied à terre de leur moto. Le premier policier qui arrive sur les lieux, c'est Julien. Et lui va s'affairer au niveau, le premier réflexe, c'est d'aller au niveau de la portière, de la vitre du conducteur, pour lui demander donc de couper le moteur. Pendant ce temps-là, Florian remonte sur la gauche, le long du trottoir. Il ne passe pas devant la voiture pour éviter d'être percuté si ça venait à redémarrer. Et il va se caler devant le pare-brise, avec son coude en appui et son arme visant Naël. Il va donner des coups de crosse pour attirer le regard du jeune homme. Et pendant ce temps-là, Julien va essayer donc à l'intérieur de trouver le bouton, en tout cas une clé. Il connaît pas le modèle de cette voiture. Va y avoir des échanges, un peu de bousculade, ce qui dans la vidéo en fait est interprété
comme des coups de crosse,
au niveau du visage, ce qui a été démenti derrière par l'enquête. Et à un moment donné, il perçoit, il capte le regard de Naël qui se dirige au loin, puisque entre temps le flot de circulation a repris et donc il y a un espace de. Et là, il se dit, lui, il le raconte très bien. Et je l'ai rencontré, Julien, et il se souvient très bien de ce moment où il capte les yeux de Naël qui regarde au loin et il sait à ce moment-là que ça va repartir.
Voilà. Oui, et dans ce cas-là, il y en a un qui a encore son bras à l'intérieur de l'habitacle.
Lui a toujours son bras.
Donc là, ça veut dire potentiellement, s'il se passe rien et que le type part,
bah, il peut
le
être policier entraîné.
Peut se faire entraîner sur 20 ou 30 mètres.
Voilà, ça a été documenté dans d'autres affaires. Sur la question de est-ce qu'ils ont agi correctement dans les règles de l'art, entre guillemets, le principe, ce qu'on appelle le principe de triangulation, il est bien respecté. C'est un principe important dans une opération de police ou dans un contrôle de véhicule comme celui-ci. Il a bien été respecté, c'est-à-dire que voilà, ils sont en formation de triangle par rapport au conducteur. Et en revanche, c'est vrai qu'il y a un élément qui d'ailleurs va lui être reproché par les juges d'instruction.
On ne met pas le bras à l'intérieur.
On ne met pas le bras à l'intérieur et pas le bras avec l'arme parce que ça, effectivement, ce n'est pas enseigné dans les écoles de police. Lui, Julien, se défend en disant « Écoutez, moi, à ce moment-là, mon premier réflexe, c'est de trouver cette clé, d'arrêter le moteur de ce véhicule. »
Oui, parce qu'encore une fois, faut se souvenir donc des fameuses 2 minutes 40 où le type fait des pointes donc à 110 km/h, passe à 90 très régulièrement, donc, et il est objectivement un danger public.
Oui.
Et on a beaucoup de chance qu'il n'y ait pas un enfant qui ait été percuté, ou même un adulte d'ailleurs, parce que
C'est même incroyable que personne n'ait été renversé, tué.
Oui, il y a des images.
Je crois, sur une piste cyclable ou une piste de bus.
Une piste de bus au départ, mais alors au départ, quand les deux policiers sortent du garage de la préfecture, c'est à ce moment-là qu'ils voient la voiture. Elle passe à faible allure devant eux, simplement sur une bande de une voie de bus. Donc bon, il n'a pas le droit de rouler sur une voie de bus, mais et Julien voit donc le conducteur, il lui paraît jeune, et c'est à ce moment-là où il dit à son collègue, allez, on contrôle, mais ça aurait pu s'arrêter là, c'est-à-dire que très certain, alors oui, ils auraient vu que Naël n'avait pas son permis, était mineur, pas son permis, il aurait été ramené au commissariat, enfin bon... Peut-être qu'il aurait fait une garde à vue, peut-être que ce serait allé plus loin, mais ça ne serait jamais arrivé là où c'est arrivé. Et effectivement, c'est un... D'ailleurs, c'est ce que ressent moi quand j'interroge ce policier, Julien, c'est-à-dire qu'il éprouve, bon, évidemment, une culpabilité vis-à-vis du jeune, mais aussi parce que c'est lui qui initie le contrôle et qui dit, voilà, on contrôle, on y va. Et donc, d'une certaine manière... Il entraîne, sans le savoir, mais à la fin, c'est ça qui se passe, il entraîne son collègue qui a tiré dans cette histoire.
Enfin, en même temps, ça ne serait jamais arrivé si le gamin n'avait pas conduit une voiture avec une Mercedes à l'âge de 17 ans, après 33 procès verbaux. Et donc, on peut mettre aussi peut-être même en cause la justice, qui, en n'ayant jamais fait la moindre sanction, la moindre admonestation même...
Non, la justice est au-dessus.
Est au-dessus de tout ça. mais c'est vrai, parce que c'est pas tant le policier qui finit par commettre je sais même pas comment on peut dire, c'est pas un meurtre, mais un accident mortel en tout cas. C'est au fond, là, si on cherche une ligne de responsabilité, ça vient quand même déjà du voyou qui multiplie les délits en s'en fichant éperdument, qui même avec deux policiers qui ont les mains, qui ont les bras avec des armes dans son habitacle, ne se dit pas, tiens là, il serait peut-être quand même temps que j'arrête mes conneries et que j'aille en garde à vue comme un gamin de 17 ans. Mais il y a aussi donc les juges qui, eux, ne font rien. Et donc, à la fin, le policier, moi, j'ai plus tendance à dire que le policier...
Et aussi, c'est cette chaîne de responsabilité, pardon, mais depuis le propriétaire de la voiture, Naël arrive au cinquième niveau. En gros, c'est la cinquième personne qui est au volant de cette voiture. À un moment donné, c'est ces personnes qui ont confié. Tout le monde savait que Naël n'avait pas le permis. Il y a ça aussi qui.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, juste une remarque. Ce que je trouve frappant dans votre description, c'est la distorsion en fond entre l'action des policiers qui dure 3 minutes, qui est quand même très très chaude la poursuite et tout, avec une conséquence effectivement dramatique. Et puis après, des juges très loin, dans des bureaux, n'ayant pas d'ailleurs au départ tous les éléments, qui tranchent de manière brutale. Je trouve qu'il y a une espèce de fossé entre l'homme qui est sur le terrain et effectivement, il n'y a qu'à Faucon. On trouve quand même souvent dans ce type d'affaires.
C'est arrivé, on a dit qu'ils auraient dû tirer dans les pneus.
Ce que j'allais dire, c'est que y a qu'à Faucon se retrouve même dans l'argumentation juridique de certains juges qui ont estimé, enfin qui estiment d'ailleurs tous à l'heure actuelle que le tir n'est pas légitime, et les juges d'appel considèrent que ce tir n'est pas légitime. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas absolument nécessaire de tirer à l'intérieur de l'habitacle. Il aurait pu tirer soit sur les pneus, soit dans le bloc moteur, ce qui est quand même un argument qui peut être contesté. Dans la mesure où déjà il faudrait prouver que Florian était dans une position qui lui permettait de tirer dans les pneus, ensuite que ces véhicules ne sont pas, enfin très souvent sont équipés de run flat.
Ça veut dire quoi ?
En fait, ce sont des pneus qui permettent de rouler encore des kilomètres et des kilomètres, même avec une crevaison.
Ah,
voilà.
Pour les courses poursuites, quand même pas.
Alors, c'est pas fait que pour les
les
constructeurs ont prévu
c'est surtout fait quand on crève pour éviter d'être arrêté tout de suite
aller jusqu'au garage d'après et le bloc moteur les voitures sont quand même plutôt bien faites, surtout celles-ci. Les organes vitaux, j'allais dire, des voitures sont quand même très bien protégés, donc il faut savoir vraiment à quel endroit précisément il faut tirer pour pouvoir arrêter la voiture. Donc l'argumentaire est contestable.
En fait, on a vraiment l'impression, quand on entend ça, d'être dans le film Sully, où Le pilote d'avion a quelques secondes pour décider d'atterrir ou d'amerrir sur le fleuve Hudson. Et ensuite, des gens, pendant plusieurs mois, répètent les opérations avec des dizaines de simulations. Et au bout de la xème simulation, réussissent à trouver qu'il aurait pu faire autrement. Donc, ils ont plusieurs mois de réflexion pour proposer une autre solution, alors que le pilote, lui, il avait 28 secondes pour décider de la manière dont ça marche. Et là, on a l'impression que les juges, c'est la même chose. En fait, moi qui ne connais pas comment fonctionne ce modèle, j'ai vu dans un film qu'on aurait pu tirer dans la voiture et l'arrêter immédiatement. Qu'en pensez-vous? Ben, j'en pense que non.
Oui. Là, il avait un quart de seconde pour se décider et pour tirer. Et en fait, la justice a mis, c'est ce que j'explique
deux ans,
un peu,
en fait, hein.
Quasiment 1000 jours à faire ce qu'elle aurait dû faire dès les premiers instants de cette affaire, c'est-à-dire regarder ce tir dans les yeux du policier. Et c'est toute la jurisprudence est faite comme ça, y compris européenne, c'est-à-dire que la question du tir légitime et de la légitime défense doit s'apprécier in concreto, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire dans la peau et dans le regard et la position du policier. Et elle a mis 1000 jours à le faire, et c'est pour ça qu'elle a donné, elle a requalifié les faits en coup mortel et non pas en meurtre, c'est-à-dire avec l'intention de tuer.
Alors, Arthur de Vatrigan, vous voulez poser une question.
Oui, à quel moment cette affaire devient plus une affaire judiciaire, mais une affaire politique, une affaire nationale? Et à partir de ce moment-là, est-ce que vous avez vu des changements dans les comportements des acteurs que vous fréquentiez, que ce soit de la justice ou de la police? Et quel était l'impact de la déclaration d'Emmanuel Macron, de mémoire, c'était rien ne peut justifier la mort d'un, je ne sais pas s'il a dit un enfant ou un ado ou un mineur.
Alors Emmanuel Macron, effectivement, le lendemain matin, le mercredi matin, il est à Marseille pour un déplacement sur les questions de sécurité, et il qualifie lors d'un micro tendu cet acte d'inexplicable, inexcusable. Alors inexplicable, ça relève du... Bon, peut-être de la morale, je ne sais pas, mais inexcusable, on est dans le registre juridique, parce que si c'est inexcusable, c'est qu'il est coupable et qu'il doit être condamné. Quand est-ce que ça a basculé sur une affaire politique? Au moment de la minute de silence à l'Assemblée nationale et au moment où Emmanuel Macron aussi prononce ses mots, c'est-à-dire qu'il va faire pencher la balance au niveau politique et dans l'opinion publique. De ce côté-là, lui le fait... J'imagine, en tout cas des proches d'Emmanuel Macron ont essayé de m'expliquer pourquoi il avait dit ces mots. Il n'est jamais revenu là-dessus, il n'y a pas eu de... jamais été réinterrogé là-dessus. Ils imaginent que c'est parce que le chef de l'État, à ce moment-là, veut faire en sorte de calmer le jeu. Il y a eu déjà des émeutes très circonscrites à Nanterre la veille au soir. On sent que c'est hyper électrique, que ça peut très rapidement partir ailleurs, et donc il pense calmer le jeu en faisant ça. En fait, ce qui se passe, c'est tout l'inverse, c'est que ça se répand partout, et ça, encore une fois, ça donne une forme de légitimité à la colère et à la casse, et derrière, à l'engrenage des émeutes. Dans ce livre, moi, je reviens aussi pas mal sur les émeutes et la façon dont ça a été géré par la place Beauvau. Et paradoxalement, ça a été géré assez rapidement, puisque ça a duré 6 nuits, en fait, pour retrouver un niveau d'avant-crise, d'interpellation, de garde à vue sur l'ensemble du territoire. Il y a 6 nuits d'émeutes. Donc c'est assez rapide, contrairement par exemple à 2005, Ziad Ebouna, Clichy-sous-Bois, qui avait duré 3 semaines. Et en fait, c'est rapide et on a un peu tué le... Ça c'est un peu... On est parti après en vacances, il y a eu les JO. Il n'y a pas eu de rétexte, en fait, sur la gestion de crise, sur les émeutes. Ça a été géré très rapidement aussi parce qu'on a envoyé, rappelez-vous, le RAID, le GIGN, la BRI, qui sont des unités d'élite et qui sont censées faire du contre-terrorisme ou des choses en tout cas du haut du spectre. Là, on les envoie sur la voie publique pour interpeller des émeutiers. Ça a figé. Il y a eu d'autres raisons pour lesquelles ça s'est arrêté, notamment le fait que... Alors, on a beaucoup dit que c'était les grands frères et les trafiquants de stupes qui avaient sonné la fin des émeutes. Ça, en réalité... Alors oui, ça a pu se passer localement. Le renseignement territorial l'a établi localement, mais globalement, c'est surtout parce que les émeutiers se sont retrouvés à court de munitions. C'est-à-dire que les flux d'approvisionnement des mortiers d'artifice ont été asséchés par la police judiciaire. Il y a eu deux grosses saisies pendant cette semaine d'émeute. Et en fait, ils se sont retrouvés à sortir de garde à vue, les émeutiers, à revenir sur la voie. Et il n'y avait plus personne. Enfin, il y avait plus déjà, les policiers avaient vidé la rue et il n'y avait plus de mortiers d'artifice. Donc voilà la raison, je pense, pour laquelle ça s'est arrêté.
C'est bien, les émeutiers sont bien battus, jusqu'à épuisement des munitions, c'est courageux.
En tout cas, c'est intelligent de la part des policiers, plutôt que d'arrêter les émeutiers, de faire en sorte qu'il n'y ait rien dans les mains. Il y a un élément dont vous n'avez pas encore parlé, c'est la distorsion d'image entre Naël, petit ange parti trop tôt, et on a l'impression que le gamin a 12 ans, un visage délicat, et des cheveux qui barrent son front, et en fait, le petit prince, quoi. Et en fait, les vraies photos de Naël où le mec est une baraque.
Je ne sais pas d'où est sortie cette première image, effectivement, où on le voit, je pense, plus jeune que ce qu'il était. Il n'avait pas 17 ans sur cette photo. Je ne sais pas comment, mais effectivement, vous avez raison, ça a participé à cette distorsion de la réalité. Ça a été exploité aussi.
Parce que le vrai Naël, on est d'accord, c'est genre 1m80, oui, poilu, et une tête à avoir été arrêtée 33 fois.
Une allure d'adulte, oui, bien sûr. Mais ça a été... c'est l'une des explications que j'essaie de dresser dans le livre, c'est la récupération qui a eu lieu derrière. Récupération, en fait, de tout un tas de collectifs, d'associations qui ont grenouillé, qui grenouillaient déjà un peu dans les quartiers, et qui a mis la main, en fait, sur ce drame, et sur la mère de Naël, puisque dès le premier soir, donc on est le mardi soir, quelques heures seulement après les faits, il y a Assa Traoré, qui, sur ses réseaux sociaux, donc vous savez, Assa Traoré...
La sœur d'Adama Traoré, qui... Le jeune homme qui aurait été tué par une violence policière, là encore, alors qu'en réalité, c'est pas vrai.
Et les gendarmes qui ont bénéficié d'un non-lieu définitif. Ouais. Et donc, Assa Traoré diffuse le mardi soir sur ses réseaux sociaux une vidéo de la maman de Naël qui appelle à une révolte, je cite, une révolte pour son fils. Et ce sera la marche, qui appelle à la marche qui aura lieu le jeudi. Donc, très rapidement, dès le soir des faits, il y a une connexion entre ces collectifs et la famille de Naël. Et derrière, ça a même été démenti par le patron du renseignement parisien lors d'une commission d'enquête qui disait l'ultra-gauche n'a pas été présente lors des émeutes. Oui, l'ultra-gauche n'a pas été le marionnettiste des émeutes qui a dicté l'agenda politique et tout ça. Oui, mais... et c'est documenté dans le livre, ils étaient présents, notamment lors du saccage des offices à Nanterre, rue des Trois Fontanaux, qui est le siège de la police judiciaire. Pendant les émeutes, il y a eu un caillassage sur le bâtiment, il y a eu plusieurs individus interpellés, dont deux qui étaient fichés S, appartenant à la mouvance, dont un... qui avait été interdit de manifester à la suite de manifestations. À Marseille, il y a eu aussi l'ultra-gauche qui était présente, donc des individus fichés de cette mouvance, qui sont allés sur les plages pour essayer de rameuter des jeunes pour aller perturber les audiences qui se tenaient, les audiences de comparution immédiate qui se tenaient au tribunal judiciaire. Donc, ils étaient présents.
Et alors, il y a quelqu'un dont on n'a finalement pas beaucoup parlé, alors que néanmoins, sa vie et son avis comptent aussi, c'est le policier, donc Florian, qui lui... Donc Julien a été mis hors de cause.
Il a bénéficié d'un non-lieu, oui, parce qu'il était poursuivi pour complicité de meurtre au départ. Ouais.
Et Florian, lui, par contre, a quand même vu sa vie s'effondrer. Ouais. Donc vous avez pu lui parler. Est-ce que...
Ah non, Florian, non.
C'est à Julien,
c'est à Julien que j'ai pu parler. Florian, lui, il veut pas parler à la presse, il réserve... Il est toujours...
Oui, pour la justice.
Pour la justice, voilà.
Mais on peut s'imaginer qu'il n'avait peut-être pas forcément envie, en se levant, d'aller tuer quelqu'un. Et l'air de rien, tuer quelqu'un, c'est quand même pas anodin. Et il y a peut-être un traumatisme. Quand on est contraint dans une espèce de moment de survoltage où on doit se dire, j'ai un danger public, qu'est-ce que je fais face à ce danger public? Est-ce que j'agis? Est-ce que je laisse faire? Est-ce que Damien, vous voulez parler? Allez-y.
Oui, non, je voulais juste mettre le profil de Florian, donc que vous qualifiez dans le livre. Hein, vous reprenez ses notes de service, hein, qui sont excellentes. Impliqué, responsable, disponible, volontaire, sérieux et loyal, vu par ses supérieurs. Trois décorations, alors que c'est plutôt un jeune policier. Acte de courage et de dévouement. Dans des conditions particulièrement difficiles, vous avez assuré votre mission avec détermination, engagement exemplaire, réactivité, professionnalisme. Il a participé à l'interpellation d'un braqueur. Donc il a même
sur son
reçu
temps de sur hors service.
Hors service, ouais. Il a reçu 9 lettres. Alors moi je suis pas policier, je connais pas, mais 9 lettres de félicitations. Moi j'ai pas reçu 9 dans ma carrière de non policier en tout cas, dont une signée par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Et puis il a participé au démantèlement d'un réseau de trafiquants. Et en face, on a Naël et ses 35 verbalisations. Il a aussi fait une garde à vue un peu agitée. Donc on a vraiment, je dirais, le fonctionnaire dévoué à l'État, intègre, exemplaire. Et en face, le petit ange qui est en fait un délinquant multirécidiviste, enfin pas un délinquant parce qu'il n'est pas condamné finalement, un délinquant non condamné, je sais pas comment on peut appeler ça. Et donc on a vraiment
aussi,
c'est le jour et la nuit entre ces deux personnages et le portrait qui va être dressé va être l'inverse en fait. Florian va être diabolisé, accusé de meurtre, on va même lui reprocher d'avoir été violent, on va chercher dans son passé des éléments pour l'incriminer. Et Naël va être présenté sous son meilleur jour, quand il avait 14 ans en photo, et puis le petit ange, on se souvient, avec tous ces people. Hein, moi, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est qu'on a des footballeurs, on a des grandes stars qui se mobilisent pour un délinquant, mais moi, j'ai jamais vu une de ces grandes stars se mobiliser pour Lola, pour Philippine, pour Thomas, à jamais. Eux, ils ont jamais le droit, alors que ce sont pour le coup des victimes non délinquantes, mais quand c'est un petit délinquant, là, il y a une grande mobilisation des people, et puis je ne sais pas si vous l'avez mentionné dans le livre, il y a même eu l'ambassade d'Algérie, l'Algérie qui a réagi, qui a fait un communiqué aussi, pour dire à quel point aujourd'hui l'instrumentalisation d'un fait accidentel relève avec l'immigration, la binationalité, les diasporas, relève aujourd'hui, peut être instrumentalisé par un État étranger pour déstabiliser, faire pression et dire attention la France, parce qu'il y avait à l'époque... comme toujours d'ailleurs des conflits entre les deux pays. Attention, parce que on pourrait en rajouter un petit peu. Bah, c'est ce qu'ils font avec ce communiqué. Donc c'est vraiment ça que dans cette affaire qui m'ont marqué.
Oui, et d'ailleurs l'Algérie a une rebelote après. Vous savez, au moment de cette histoire à Marseille d'un migrant qui avec un couteau. Migrant algérien qui était sorti dans la rue, qui coursait les gens avec un couteau, et la BAC l'avait neutralisé, voilà. Et effectivement, encore à ce moment-là, l'Algérie avait demandé l'ouverture d'une enquête pour meurtre contre les policiers. Mais ce qui est intéressant dans ce parallèle, c'est que en fait cette histoire très rapidement a été, on a tenté de la mettre sous l'étiquette, la bannière du crime raciste.
Et de la violence policière.
Et la police tue, voilà, c'était la preuve par l'image que la police tue. Et que et d'ailleurs, le CRAN, donc le Conseil représentatif des associations noires, a tenté de se constituer partie civile dans cette affaire. Ça a été en disant que c'était un crime raciste parce que c'était deux policiers blancs qui avaient mis à mort un jeune des quartiers d'origine arabo-musulmane. Et donc c'était un crime raciste. Voilà, c'est ce que disait le CRAN. Et ça a été débouté en fait par la justice. Et ça allait très loin puisque ça allait jusqu'en cassation. Voilà. Et en fait, si vous voulez, ce que ça a donné, c'est que ça a mis quand même dans la tête des gens que peut-être ça.
Oui. Voilà. Bah, c'est d'ailleurs très entretenu. On a un député qu'on aime bien à Radio Courtoisie, qui est Carlos Bilongo, qui entretient avec complaisance cette histoire d'une violence policière systématique. Systémique, comme ils disent.
Il parle bien, systémique, c'est chiant.
Non, il dit pas ça, mais je traduis. Qui explique ça sans arrêt, c'est-à-dire contre ce qu'il appelle les fréros étant donc les jeunes de banlieue, et qui seraient en fait des victimes systématiques, et face à une violence policière qui serait toujours effectivement abusive en fait. Hein. C'est... Donc ça c'est vraiment un discours qui est très rodé, qui est récupéré.
Qui est très rodé, et je pense que le, pour filer le sujet jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui dernièrement sur les élections municipales, en fait ce qu'on a vécu là, on avait tous les ingrédients au moment de l'affaire Naël, puisque aujourd'hui, vous avez quand même eu des maires qui ont été élus sur l'idée, c'était dans leur programme, que la police tue et que donc, il fallait la désarmer. Et, oui. Et ça... Et que finalement, la police était l'instrument raciste d'un État qui discrimine les quartiers. Et en fait, tout ça, vous l'avez déjà... dans une sorte de laboratoire de convergence des intérêts dans l'affaire Naël.
Oui. Alors, Arthur de Vatrigan, je rappelle donc aux auditeurs qu'ils écoutent William Molinier dans Restons Courtois, et William Molinier donc, est journaliste à Europe 1, mais il est aussi l'auteur de Dernier Recours, enquête sur l'affaire Naël, parue donc chez Mareuil Édition. Arthur de Vatrigan.
Vous avez dit qu'il y a eu pas mal de... Il y a eu différentes versions, des approximations, des mensonges. Alors c'est vrai que quand on suit une actu au quotidien, bah... On interprète des choses, on n'a pas tous les éléments, donc on peut se tromper, mais il y a eu un peu plus que ça, selon ce que vous racontez dans votre livre. Quels sont les deux, trois gros mensonges qui ont été alimentés, par qui et pourquoi ?
Alors le premier gros mensonge, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est le récit erroné que donne le passager avant qui est en fuite et qui donne ce récit sur les réseaux sociaux. Et ça va être la base... De la démonstration politique que le policier qui a tiré est un criminel. Puisque son collègue a donné des coups de crosse, puisque Naël a redémarré involontairement la voiture et que le policier a tiré avant même que Naël redémarre. Donc ça, c'est le premier mensonge. Voilà. Et d'ailleurs, lui, c'est assez étonnant parce que là encore, c'est la justice parfois est surprenante. C'est que lui, il va raconter ça. On le saura bien après, hein, mais il va raconter qu'il est allé chez son père à Marseille pendant cette semaine-là, et il revient. Il est sous contrôle judiciaire. Il a interdiction pour une affaire de stupéfiants déjà. Il a interdiction de paraître. Sur la voie publique, entre 22h et 6h du matin. Et le samedi soir, il va être... Les policiers de Nanterre vont le croiser dans la rue. Il va être interpellé. Les policiers vont appeler le juge d'instruction qui est en charge de l'affaire. Et le juge d'instruction va leur dire « Non, 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 relâchez-le. Là, les émeutes, ça recommence à retomber, il n'est pas question d'en remettre une couche. De toute façon, il est convoqué lundi matin. Il avait déjà disparu pendant 5 jours. Alors la veille, il a donné une interview au Parisien où il a re-raconté son histoire. Mais c'est là où c'est quand même très étonnant. C'est-à-dire que vous avez un témoin absolument capital dans l'histoire, puisque c'est le passager avant. Donc il peut raconter des choses, il peut éclairer des choses qu'on n'a pas encore... pu matériellement établir, et lui est interpellé en violation de son contrôle judiciaire le samedi soir, et on dit au policier non, il reviendra, il est convoqué avec sa maman le lundi. Il reviendra et effectivement à la convocation, heureusement.
Et c'est un mineur aussi, lui ?
C'est un mineur, 17 ans.
Ah oui, super. Damien Rieu, je crois que vous vouliez prendre la parole.
Oui, je voudrais vous faire écouter la réaction de la mère de Naël lors de la manifestation qui va tenir...
Qui n'en fait pas ? Dites-moi, qui n'en fait pas dans la vie ?
Des propos incroyables.
Qui conduit pas sans permis ? Dites-moi, expliquez. Dites-moi. Pas mal de gens ont conduit. Tout le monde. On a tous essayé de conduire en défaut de permis. On a tous appris à conduire sans avoir le permis, je vous promets.
Voilà, donc c'est juste pour resituer un petit peu dans quel environnement un jeune comme ça grandit. Dans un environnement où la justice lui dit, continue, c'est pas grave, t'as le droit, il en était à 28, il aurait pu avoir 200 en fait, hein, du coup. Une mère qui, visiblement, ne comprend pas que s'il y a un permis, c'est aussi pour sauver son fils, pour sauver des gens, pour la sécurité de tous, qui est... Enfin, comment un enfant, avec ces deux signaux, on a un père aussi qui est en prison, hein, qui...
Il était en prison,
mais bon, voilà. Donc comment, dans cet environnement à la fois laxiste de la part de l'État et en même temps environnement familial complètement déstructuré, et une mère qui justifie, malgré ce qui s'est passé, en disant « c'était tout à fait normal », je veux dire, ce qui est arrivé là, en fait... on s'étonne surtout que ça n'arrive pas plus souvent, en fait.
Alors, mathématiquement, je rentre un peu à un moment donné dans les statistiques policières des refus d'obtempérer. Statistiquement, il y a à peu près 4000
toutes les 20 minutes
scènes. Alors, ça, c'est le nombre de refus d'obtempérer en général, mais ceux qui vraiment mettent en danger ou qui percutent, ou qui, voilà, on est à peu près à 4000. Chaque année, donc statistiquement, il y a 4000 possibles affaires Naël chaque année. Donc effectivement, vous avez raison. Cette histoire de permis, mais aujourd'hui encore, j'entends des gens reprendre cet argumentaire de « mais qui n'a jamais conduit sans permis ?» Alors, non mais pardon. Moi aussi,
la première sur une route,
sur un parking avec un tonton, avec le papa, avec qui vous voulez, mais pas à 8h du matin, après
à 110 à l'heure,
dans les rues de Nanterre. Mais si vous voulez, ça a contribué à fixer dans la tête des gens cette légende selon laquelle en fait Naël était un peu un jeune garçon tout bien, enfin voilà, qui n'avait aucun problème avec la police, aucun problème avec la justice. Ça a dénaturé en fait. Et en fait, quand
c'est
vous
la
venez...
police qui avait des problèmes avec lui. En
voilà,
fait,
c'est la police. Ça. Voilà. Et en fait, quand vous les gens, ce qu'ils ont retenu de cette affaire, en fait, c'est les 40 secondes. C'est ces 40 secondes, cette vidéo qui est marquée dans la tête des gens. Et c'est très 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 compliqué de faire comprendre ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y a eu après.
Alors, pour conclure, parce que malheureusement, on arrive au terme de notre entretien, mais il y a la question encore une fois de la justice, maintenant du temps judiciaire, parce qu'on est quand même trois ans après. Où est-ce qu'on en est et que devient ce policier, donc Florian ?
Alors, où est-ce qu'on en est donc, dans cette affaire judiciaire, il y a deux questions juridiques qui se posent. Il y a premièrement la qualification des faits. Est-ce que c'est un meurtre ? Est-ce que ce sont des coups mortels ? Ça, la chambre de l'instruction de la cour d'appel vient de dire que ce sont des coups mortels. Mais quand bien même ce sont des coups mortels, puisque c'est un policier qui a tiré, deux textes s'appliquent, le texte sur la légitime défense et le texte sur l'usage des armes lors des refus d'obtempérer, texte de 2017, qui donne la possibilité aux policiers d'ouvrir le feu dès lors que une voiture refuse les injonctions et dans sa course est susceptible de, et ça c'est bien les mots qu'il y a dans le texte de loi, est susceptible de commettre des violences sur le policier ou des tiers dans sa fuite. Et donc sur cette question-là, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dit que c'est le tir est proportionnel, c'est-à-dire que le policier ne pouvait pas faire autrement que de tirer pour arrêter cette voiture, mais qu'il n'était pas absolument nécessaire de tirer à l'intérieur de l'habitacle, et on en revient à ce que je vous disais précédemment. Et en fait, il y a eu un pourvoi en cassation, donc là maintenant, la chambre criminelle de la cour de cassation doit à nouveau qualifier les faits et dire si le tir ou non était ou non légitime. Si le tir n'est pas légitime, ça part devant une cour d'assises si c'est qualifié en meurtre, ça part devant une cour criminelle si c'est qualifié en coup mortel, et si le tir est légitime, c'est un non-lieu et on en reste là.
D'accord. Alors, on va en rester là, justement. Vous concluez votre livre en disant...
On espère pour le policier.
On espère, oui. Florian et Julien ne sont pas des héros, mais ils ne sont pas des meurtriers. Voilà, je pense que tous les auditeurs de Radio Courtoisie auront intérêt à lire un dernier recours donc, de William Molinier, Enquête sur l'affaire Naël, chez Mareuil Édition. William Molinier, merci beaucoup d'être venu à Radio Courtoisie.
Merci de l'invitation.